Chapitre 14. Si ce n'est à l'époque où il faisait partie des Marines, Gilberto avait toujours vécu dans l'appartement situé au-dessus de l'entreprise de pompes funèbres familiales. Enfant, déjà, il s'endormait en sachant qu'il y avait au moins un mort au rez-de-chaussée, parfois deux ou trois. D'aussi loin que remontaient ses souvenirs, il avait pris l'habitude de s'introduire subrepticement dans les salons funéraires en l'absence des familles, afin de contempler les cadavres fraîchement embaumés dans leurs cercueils. À 11 ans, il aidait son père du mieux qu'il le pouvait. Il avait vu des gens morts de vieillesse à 90 ans, comme des malades emportés par un cancer à 50. Des victimes de rixes dont le destin s'était scellé dans un bar à la fleur de l'âge. Des adolescents décédés dans un accident d'auto. Des enfants battus à mort par un parent abusif. Par la suite, il avait appris à préparer leur dépouille avec tout le respect et la tendresse enseignés par son père. Depuis la naissance, Gilberto n'avait jamais craint la présence des morts. Il ne gardait que de bons souvenirs de ces pièces du premier étage, habitées par la joie de vivre ensemble. C'était la première fois ce soir-là qu'il ressentait de la peur dans ce havre de paix. Lorsque Jane lui avait parlé la veille du complot des Arcadiens, il avait été pris d'effroi comme jamais, même à l'époque où il arpentait les champs de bataille. Et voilà qu'au moment où Booth Hendrickson passait de son état d'homme libre à celui d'esclave, la moelle des os de Gilberto se glaçait. La maîtrise des techniques d'interrogatoire de Jane et l'opiniâtreté dont elle faisait preuve étaient littéralement fascinantes. En dépit de la façon insistante, parfois brutale, dont elle traquait la vérité, jamais il ne s'était senti agressé par ses méthodes. Il en arrivait à remercier le ciel que la jeune femme se trouve du bon côté de la barricade, car elle aurait été un ennemi redoutable si elle avait pris le parti des factieux. Le cas de Hendrickson était bien différent. Son arrogance, son mépris pour les droits et la vie des autres, cette utopie qu'il appelait de ses vœux au risque de plonger l'humanité dans les ténèbres, tout chez lui révulsait Gilberto. À mesure que l'état de Hendrickson se détériorait sous l'effet de la métamorphose qu'il subissait, ou peut-être à la suite d'un dysfonctionnement du mécanisme de contrôle, Gilberto sentait ses cheveux se dresser au niveau de sa nuque. Dans la mesure où le processus de modification n'était pas terminé, peut-être jouait-il la comédie, mais il était difficile d'imaginer dans quel but. Jane l'interrogea longuement au sujet de la propriété de la Roya dans laquelle vivait Annabelle Claridge, ainsi que sur le domaine du lac Tao où cette dernière s'installait traditionnellement de mai à octobre. « Elle apprécie Tao pour sa beauté en été et non pour les sports d'hiver », précisa Hendrickson en laissant échapper un petit rire teinté d'amertume dont il refusa d'expliquer les raisons. Il ne s'était pas fait prier pour parler de la maison de la Roya, mais son visage s'était assombri à l'évocation de celle de Tao, qu'il appelait la Forge. En l'absence d'Annabelle, cette résidence d'été était placée sous la responsabilité d'un certain Loyal Gervin, qui y vivait à l'année avec son épouse Lilith, elle-même employée en qualité de gouvernante. Lorsqu'elle était plus jeune, Annabelle passait 9 mois par an à la Roya, et ses fils y avaient en partie grandi. « Pourquoi ce nom ?» s'étonna Jane.
« La Forge ? C'est le nom qu'elle lui a toujours donné ?» répondit Hendrickson en observant au fond de son verre les glaçons à moitié fondus, comme un devin liré dans le marc de café.
« La maison abritait une forge autrefois ?»«
Oui, la sienne. »«
Je ne comprends pas. »
Il releva la tête et croisa brièvement le regard de Jane.
C'est quoi une forge pour vous?
L'atelier d'un forgeron, avec un feu, un marteau, une enclume, et tout ce qui sert à fabriquer des fers à cheval, des épées et des outils divers.
Le même rire ironique s'échappa des lèvres de Hendrickson.
Dans le cas présent, il s'agit des outils divers.
Mais encore?
C'est là qu'elle forgeait ses fils,
répondit-il après une hésitation.
Vous parlez de Simon et de vous?
Je croyais avoir été clair.
Elle vous a forgé de quelle façon?
Elle a fait de nous les hommes qu'elle souhaitait.
Ses narines se dilatèrent et il huma l'air en tournant la tête à gauche et à droite.
Vous avez senti?
Senti quoi?
Senti Jane.
Une odeur de viande avariée.
Je ne sens rien. Hendrickson, que Jane intimidait, n'avait aucun mal à regarder Gilberto.
Vous ne sentez pas une odeur de viande avariée, Charles?
Non.
Les odeurs que personne ne remarque. C'est l'un des symptômes de l'implantation dans le cerveau du mécanisme de contrôle.
Jane laissa s'écouler un battement avant de reprendre l'interrogatoire. De quelle façon votre mère vous a-t-elle forgé?
Elle savait s'y prendre, c'est tout.
Mais elle nous interdit d'en parler.
Je vous y autorise?
Ce n'est pas à vous de m'accorder la permission.
Il est hors de question de reparler de tout ça. Plus jamais. C'est hors de question.